Et c'est la chronique de Monique Kirouac, 5052. Est-ce qu'un jour on va se rendre là? Côté âge, je dis. Mais je sais
J'espère
que.
que non, Hélène.
Mais pourquoi pas?
Ben, je sais pas, là.
Parce que quand on meurt, on n'en revient plus, là. C'est long, longtemps.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
L'éternité, c'est long, surtout vers la fin, c'est ce que disait, je pense, bien Woody Allen.
Oh, il a bien raison. Il
Oui,
a bien
oui.
raison. Alors, l'article que j'ai retenu aujourd'hui, Hélène, a été rédigé par Hassan Vallée, qui est professeur adjoint en épidémiologie à l'Université Deakin, qui se trouve en Australie. Alors, je pense qu'on aime tous nous imaginer bien vieillir. Et puis aujourd'hui, semble-t-il qu'un simple test sanguin ou salivaire nous promet de nous dire, ça sera le cas, en mesurant notre âge biologique. Alors, comme on le disait en présentation, alors que l'âge chronologique correspond à la durée de notre vie, les mesures de l'âge biologique visent à indiquer l'âge réel de notre corps en prétendant mesurer l'usure, et ce, au niveau moléculaire. Alors, c'est sûr que l'attrait de ces tests est indéniable. Les gens soucieux de leur santé peuvent voir leurs résultats comme une confirmation de tous les efforts déployés pour contrer le vieillissement. Mais ces tests sont-ils vraiment fiables? Offrent-ils réellement des informations utiles ou s'agit-il simplement d'un habile stratagème, marketing déguisé en science? Alors, comment les tests fonctionnent-ils? Au fil du temps, les processus chimiques qui permettent à notre corps de fonctionner, appelés activité métabolique, entraînent des dommages et un déclin de l'activité de nos cellules, tissus et organes. Les tests d'âge biologique visent à saisir certains de ces changements, offrant alors un aperçu de notre santé ou de notre état de vieillissement au niveau cellulaire. Notre ADN est également affecté par le processus de vieillissement, en particulier des marqueurs chimiques que l'on appelle aussi groupes méthyles, s'y fixent donc sur notre ADN et affectent l'expression des gènes. Ces changements se produisent de manière prévisible avec l'âge et les expositions environnementales dans un processus que l'on appelle la méthylation. C'est donc des réactions chimiques de que subit notre ADN à cause justement de l'environnement et aussi de peut-être notre alimentation et de d'autres intrants importants. Des études scientifiques ont utilisé des horloges épigénétiques qui mesurent cet effet chimique, la méthylation de nos gènes, pour estimer l'âge biologique. En analysant leur niveau à des endroits spécifiques du génome à partir d'échantillons prélevés sur les participants, les chercheurs appliquent des modèles prédictifs pour estimer l'usure cumulative du corps. Alors, on voit que c'est quand même assez complexe, là. Il y a des prélèvements du génome, donc dans notre ADN, et il y a des modèles qui sont élaborés de façon très méticuleuse, dirais-je. Alors, que dit la recherche à propos de leur utilisation? Bien que la science évolue rapidement, les preuves étayant l'utilisation des horloges épigénétiques, donc de notre usure, là, pour mesurer le vieillissement biologique dans les études de recherche sont solides.
Ah.
Oui. Mais c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est vraiment avec des prélèvements multiples sur de mêmes participants et c'est des analyses sur des populations. Des études ont montré que l'estimation de l'âge biologique épigénétique est un meilleur prédicteur du risque de décès et des maladies liées au vieillissement que l'âge chronologique. Il a également été démontré que les horloges épigénétiques sont fortement corrélés au mode de vie et aux expositions environnementales telles que le tabagisme et la qualité de l'alimentation. De plus, ils se sont avérés capables de prédire le risque de maladies telles que les maladies cardiovasculaires qui peuvent entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Dans l'ensemble, un nombre croissant de recherches indique que les horloges épigénétiques sont des mesures fiables du vieillissement biologique et sont étroitement liées au risque de maladie et de décès. Mais ces tests sont-ils vraiment fiables pour les individus? Parce que là, on parle de tests sur des populations, mm-hmm. et comme je disais, avec différents prélèvements sur un même individu. Alors, si ces tests sont précieux pour étudier des populations dans le cadre de la recherche, l'utilisation d'horloges épigénétiques par des entreprises commerciales pour mesurer l'âge biologique des individus, c'est une toute autre affaire et ça nécessite un examen approfondi. Le facteur le plus important à prendre en considération pour les tests au niveau individuel est sans doute leur précision. Il s'agit de déterminer si un seul échantillon prélevé sur un individu peut donner des résultats très différents. Alors, Hélène, il y a une étude qui a été réalisée en 2022 et qui a révélé que les échantillons présentaient des écarts pouvant aller jusqu'à 9 ans. Ainsi, un échantillon identique prélevé sur une personne de 40 ans peut indiquer un âge biologique aussi bas que 35 ans. Donc, wow, on est content, une raison de se réjouir, ou aussi élevé que 44, peut-être une source d'inquiétude. Alors, bien que ces tests aient été considérablement améliorés au fil des ans, leur précision varie considérablement d'un fournisseur à l'autre. Ainsi, selon la personne à qui vous envoyez votre échantillon, votre âge biologique estimé peut varier considérablement, comme on vient de l'illustrer.
Oui, des résultats qui font plaisir, d'autres qui déçoivent.
Ben oui, c'est ça. Alors, on choisit lequel, hein?
On va aller vers le positif.
Oui, c'est ça, exactement. Le verre à moitié plein.
Oui.
Une autre limite, semble-t-il, réside dans l'absence actuelle de normalisation des méthodes utilisées pour ces tests. On le devine, les entreprises commerciales effectuent ces tests de différentes manières, en utilisant différents algorithmes pour estimer l'âge biologique à partir de données. Et comme on peut s'y attendre, ben, ces entreprises ne divulguent pas leurs méthodes. Il est donc difficile de les comparer et de déterminer laquelle fournit les résultats les plus précis et ce que vous obtenez pour votre argent. Une troisième limite réside dans le fait que, bien que les horloges épigénétiques soient étroitement liées au vieillissement, elles ne sont qu'un indicateur et ne constituent pas un outil de diagnostic. En d'autres termes, elles peuvent fournir une indication générale du vieillissement au niveau cellulaire, mais elles ne fournissent aucune information spécifique sur les problèmes potentiels d'une personne qui vieillit plus vite qu'elle ne le souhaiterait, ni sur ce qu'elle fait de bien si elle vieillit bien. Alors, quel que soit le résultat du test, tout ce que l'on obtiendra probablement de fournisseurs commerciaux de tests épigénétiques, ce sont des conseils génériques sur ce que la science considère comme un comportement sain.
Bon.
Alors, est-ce que ça en vaut la peine ou qu'est-ce qu'on devrait faire à la place? Est-ce que ça en vaut la peine de faire ces tests?
Même je dirais si que non.
Pardon?
Je dirais que non. Manger bien, bouger,
ben
dormez
oui,
bien.
Hélène, vous me devancez.
C'est la base.
Oui, exactement. Alors, même si les entreprises qui proposent ces tests ont de bonnes intentions, il ne faut pas oublier quel est leur objectif final. Nous vendre ces tests et réaliser un profit. Ça coûte environ 500 $, Hélène, pour un petit prélèvement de notre salive ou un test sanguin. Si l'idée d'utiliser ces tests comme un outil de santé personnalisé est prometteuse, il est clair qu'on n'est pas encore rendu là. Pour que ça devienne une réalité, ben, ces tests devraient être plus reproductibles, standardisés entre les différents prestataires et validés par des études à long terme qui établissent un lien entre les changements de l'âge biologique et des comportements spécifiques. Ainsi, si les tests ponctuels de l'âge biologique font sensation sur les réseaux sociaux, ben, ils représentent pour la plupart des gens un coût important et offrent une valeur réelle limitée. La bonne nouvelle, c'est ce que nous savons déjà, ce qu'il faut faire pour augmenter nos chances de survivre plus longtemps et en meilleure santé. Vous en avez nommé quelques-uns, Hélène, en effet, améliorer notre alimentation, donc éviter tous les aliments ultra-transformés, augmenter notre activité physique, comme nous le suggérera Yvan, marchons, 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 et peut-être un petit peu de musculation aussi, dormir suffisamment, arrêter de fumer, réduire le stress et privilégier les relations sociales.
Les relations sociales, mais avec des mocktails plutôt que des cocktails.
Oui, peut-être. Oui, oui, oui. Faut faire attention à ce qu'on fait dans ces relations-là. Alors, on n'a pas besoin de connaître notre âge biologique pour apporter dès maintenant des changements dans notre vie afin d'améliorer notre santé. On en parle assez souvent, Hélène. Ça devrait rentrer dans la tête de nos auditeurs, nos auditrices. Et probablement qu'à ce moment-là, on vivra en santé puis que notre âge chronologique sera moins important que notre âge biologique, mais que l'on ne connaîtra probablement pas d'ici quelques années.
Et vous venez nous faire économiser 500 $.
Ah oui, surtout, minimum, avant taxe.
Merci, Monique.